Donc on commence ici Sefer Shemot, Parashat Shemot. Ve'eile Shemot b'nei Israël haba'im Mitzrayima. Voici les noms de b'nei Israël qui vient à Mitzrayim. Et Yaakov. Pourquoi et Yaakov? Pourquoi et? Le mot et veut dire le, c'est un article, le Yaakov. On ne dit pas le Yaakov, ça ne se dit pas, on dit Yaakov. C'est-à-dire, être veut dire des fois avec. Être, un article, ça donne de l'importance. Pour donner de l'importance à Yaakov, et être veut dire aussi avec Yaakov. Quelque chose qui est annexé à Yaakov. Ish ou Beito Baou, un homme et sa maison, un homme et sa famille est venu. C'est-à-dire quoi un homme et sa famille? C'est-à-dire quoi un homme? Ça veut dire, je veux dire personnalité, parce que les personnes qui sont maintenant mentionnées sont des personnes importantes. Ish, c'est tzaddik, ou beito et sa maison. Donc sa femme, ses enfants, bah où ils sont venus. Ouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Mais tout ça, on a déjà dit à la fin de Sefer Bereshit. Pourquoi il y a une répétition ici? Anarashi nous explique parce que quand on kiffe quelqu'un, on parle tout le temps de lui. Répéter le nom, c'est un signe d'affection. On aime la personne. Hachem, il aime ces personnes. Alors, il répète. Rouven Shimon, et aussi dans Sefer Bereshit, ils étaient vivants. Maintenant, ils sont morts. Pour nous dire que même en état de mort, ils sont en vérité très importants. Les tzadikim, quand ils sont vivants, ils sont très importants, ils peuvent nous aider. Quand ils ont disparu, aussi ils nous aident, parce que leurs souvenirs et les choses qu'ils ont laissées dans leur vie, c'est important même après qu'ils disparaissent. Ouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Qui est-ce qui manque ici? Yosef. Yosef n'est pas encore cité. Parce qu'eux, ils sont venus avec Yaakov. Yosef n'est pas venu avec Yaakov. Il est venu indépendamment. Voyez, et ce fut Kol Nefesh. Toutes les âmes Yotze Yerer Yaakov qui sortent du Yerer de Yaakov. Shivim Nefesh. 70 âmes. Yosef Hayab Mitzrayim. Et Yosef était en Égypte. Quel chidouche que Yosef était en Égypte. C'est pour nous dire Yosef était en Égypte. C'est le même Yosef. Le Yosef, quand on était enfant, il était tzaddik chez son père. C'est le même Yosef qui était en Égypte, c'est-à-dire un homme qui n'a pas changé. Et ça, c'est un grand chidouche parce que les gens, la majorité des gens dans le monde, quand il y a un changement de décor, quand il y a un changement de situation, alors ça influence et souvent les gens, à un certain moment, ils perdent les pédales. Donc, être un enfant chez son père à la maison, c'est une chose. Après d'être rejeté et vendu, être comme intendant chez Potiphar, après être en prison, après être le roi, tout ça, ce sont des conditions qui peuvent faire perdre à un homme son orientation. On nous dit non, Yosef était tzaddik depuis le début jusqu'à la fin. Yosef, c'est le même Yosef, Hayab Mitzrayim. Savoir tenir la Torah, tenir les mitzvot, tenir la tzidkut, de rester toujours juste et droit dans toutes les situations qui changent d'un bout à l'autre, ça c'est la grandeur d'un homme. Ça montre que la grandeur, elle est vraiment acquise, parce qu'il y a deux sortes de grandeur. Il y a une grandeur qui dépend des circonstances. Il y a une circonstance favorisante de tzidkut, il est dans un contexte qui favorise que l'homme, il est bien. Bon, alors l'homme, il est bien. Comme un caméléon. Un caméléon qui est entouré par des feuilles vertes, eh ben, il est vert. Et quand il est à côté du rouge, il est rouge. Ça, c'est le caméléon. La majorité des gens sont quelque part un caméléon. Et ça montre que la personne n'est pas lui-même. La personne était un peu comme une feuille dans le vent, et le vent il souffle au nord, il va vers le nord, le vent il souffle vers le sud, il va vers le sud. Mais une personne qui, dans toutes les conditions contradictoires, est toujours le même, c'est lui-même qui vit. Et Yosef, il a commencé tzaddik, il est resté tzaddik à la fin, ça, c'est une grande chose. Vayamot Yosef, vechol echa vechol adorahu. Et Yosef, il est mort, et tous ses frères. Donc Yosef, il est mort le premier, après les frères. Comment ça se fait que Yosef, il est mort le premier? Là? Alors, justement, il ne devrait pas mourir le premier, il aurait pu mourir le dernier. C'est parce qu'il était le roi. Et quand on a des responsabilités, ça fait vieillir. Ça fait aussi jalouser. L'expression de la Gemara, Rabbanut mekaberet et baleha. La position supérieure enterre celui qui la tient. Ça veut dire la haute position politique, ça enterre une personne. Pourquoi ça enterre une personne? Bon, certaines parce qu'ils se font lyncher, certains ils se font tuer. Bon, mais ça c'est autre chose. C'est parce que l'usure, parce que les gens sont jaloux, parce que les gens ils prient qu'ils dégagent déjà. Et parce qu'il fait des erreurs quand on est chef. Et l'orgueil fait vieillir. La position supérieure, les gens ne supportent pas toujours. Donc il est repoussé vers la sortie. Un homme qui est modeste, qui est à l'ombre, qui ne se met pas devant, il a une vie plus longue que les gens officiels. En tout cas, ce qui concerne pour la bonne renommée, c'est sûr. Pour la bonne renommée, ne vaut pas mieux que d'être à l'ombre. Parce que quand on impose son avis, on paye cher. Ça se paye cher. L'honneur se paye cher avec beaucoup d'honte. Un homme qui cherche l'honneur, il doit payer cher. C'est comme partout. Quand on cherche des choses de plaisir, on est frustré. Tous les gens qui courent derrière le plaisir, ils rentrent dans une spirale de frustration. C'est comme ça, parce que le plaisir est quelque chose qu'on ne peut pas tout le temps avoir. Donc quand on attire l'appétit pour kiffer, et une fois qu'on a fini de kiffer, l'appétit revient, on n'est pas capable de se satisfaire. Donc forcément, il y a un manque et une frustration. Là où il y a le plaisir, il y a la frustration. Et comme ça, c'est dans l'honneur. Là, en cours de l'honneur, forcément, on attrape un manque d'honneur. Et les gens, ils font tous la même expérience et personne ne devient intelligent. Et tout le monde se fait avoir par la même façon. Tous les gens qui courent derrière les plaisirs, ils se font tous avoir. Et c'est toujours la même chose, ils sont tous frustrés parce qu'ils ont réveillé l'appétit. Et dans la politique aussi, c'est comme ça. La honte, c'est le corollaire à l'honneur. Ils ont demandé une fois à un politique. Tout le monde a insulté les politiques. Tout le monde l'a insulté. Il dit, alors pourquoi vous êtes politique si tout le monde vous insulte? Il dit, pour l'honneur. Ah, ça rapporte le... Oui, mais c'est ça la stupidité des gens. Alors, venez Israël, v'chol hadorahu, toute cette génération qui est venue avec Yaakov, ils sont tous morts. Donc, il y a une nouvelle génération. Venez Israël, par où? Ils sont multipliés, vaïshretsu, ils se sont pullulés. Ils sont pullulés, vaïrbu. C'est une autre expression de multiplier, vaïatsmu, ils sont devenus nombreux, puissants. Bimo, terriblement, meo, terriblement. Donc il y a 6 expressions. Paru, vaïshretsu, vaïrbu, vaïatsmu, bimo, meo, 6 expressions. Et 6 expressions veulent dire qu'il y avait certaines femmes qu'elles avaient même des sextuplés. Il y avait une multitude, pas toutes les femmes, mais il y avait des femmes jusqu'à sextuple. Vatimale ha'aretzotam. Et la terre les a remplis. Ça veut dire quoi? Ils n'avaient plus seulement la place en Goshen. Avant, on les a installés à Goshen. Mais maintenant, vatimale ha'aretzotam. La terre les a remplis. Ils étaient partout, les Juifs. Ils étaient partout. On les voyait partout. Et on les remarquait parce qu'ils étaient différemment. Ils avaient des habits différents. Ils étaient différents. Les Juifs, ça se remarque. Les Juifs, ça se remarque. Il n'y a rien à faire, ça se remarque. Vous connaissez cette Gemara dans Sanhedrin. Avec les deux gens, avec les deux prisonniers. Il y a un pasouk dans Eicha. Irmiya Navi, tout au début de Eicha Sarati Bamdinot. Eicha Haïtala Badat, Am Rabati Am Sarati Bamdinot. Elle est la chef parmi les nations. Les juifs qui partent en exil sont chefs parmi les nations. La Gemara nous raconte, quand il y avait le Chorban de Beth Amikdash, donc ils sont venus, les kidnappeurs, les goyim, ils ont piqué les juifs et on les a exilés. Alors, c'est marqué que le goy, il est parti avec deux juifs, avec des menottes. Alors, le goy, il est derrière, les deux juifs, ils sont devant. Alors, un juif, il dit à l'autre, devant nous, il y a un chameau à 2000 mètres. Et ce chameau, il est borne. Et il porte deux gourdes. Une gourde de vin, une gourde de lait. Et il y a un goy qui l'a conduit. Alors le goy, il est derrière, il dit, mais vous êtes des fous. Mais qu'est-ce que vous inventez des histoires à dormir debout? Mais qu'est-ce que vous êtes têtu, orgueilleux, vous êtes... Il dit, pourquoi? Il dit, vous inventez des choses, vous affirmez des choses comme ça. Mais il dit, si vous ne croyez pas, vous pouvez vérifier. Eh bien, le goy courait comme un malade, il a rattrapé un chameau qui était borne, conduit par un goy, un côté de lait, un côté de vin. Il est revenu, il a dit, vous avez raison. Comment vous savez? Il dit, parce que nous voyons les empreintes, donc c'est un chameau, et à un côté, il y a toujours des gouttes du vin, parce qu'il y a ici un petit trou dans le vin, et l'autre côté, il y a des trous de lait. Et comment vous savez que c'est 2000 mètres? C'est parce que ça séchait toujours un petit peu. Nous avons calculé pour sécher, ça doit être un quart d'heure ou un demi-heure de truc. Il dit, d'où vous savez qu'il est borne, ce chameau est borne? Il dit, parce qu'il y a du gazon à gauche, il y a du gazon à droite. Il n'y en a qu'un côté qui est mangé, l'autre n'est pas mangé. Parce que comme il est borne, il ne voit pas. Il dit, d'où vous savez que c'est un goy qui conduit? Il dit, parce qu'on a vu que de temps en temps, le type, il a fait ce besoin, et les juifs, ils font le besoin... vers le côté et lui vers la route. On a vu comment lui il a fait ses besoins, donc c'est un goy qui conduit. C'est marqué que le goy il a dit, vous les juifs, vous êtes supérieurs, vous êtes une classe supérieure. Il les a embrassés, il dit, béni le Dieu qui a choisi ce peuple pour son peuple. Il leur a enlevé le menotte et il les a rentrés chez lui à la maison. Il leur a fait un festin, il a dit, vous êtes des gens libres. Mais comment on peut prisonnier des gens comme ça? Mais vous êtes une classe supérieure aux autres nations. Mais comment ça se fait? On ne va pas prendre vous comme des esclaves. Vous êtes des chefs. Sarati Bamdinot, où les juifs ils vont, la Gemara nous raconte, ils deviennent les chefs de leur chef. Les juifs sont esclaves, ils deviennent les chefs parce que c'est comme ça. Sarati Bamdinot, on est comme ça. Alors, Vatimale Haaretzotam. Il y a un nouveau roi qui se levait sur l'Égypte. Il se levait un nouveau roi, Al-Mitzrayim. Donc on connaît ça. Est-ce que vraiment c'est un nouveau? Ou c'est un homme qui a joué le nouveau? Il a oublié Shalom Yadait, Yosef, qui ne connaissait pas Yosef, ou qui faisait semblant qu'il ne connaissait pas Yosef. Mais le Pshat Pashut, il est que oui, il est mort, le paro. Yosef, il a quand même régné bien. Il est devenu le roi à quoi? Il est devenu le roi à 30 ans. Il a vécu 110 ans, donc ça fait 80 ans. Donc après 80 ans, il est mort. Paro, quel âge il avait Paro? Un peu plus âgé. Donc Paro, il a vécu 120, 130 ans. Ça y est, c'est normal qu'il meure. Pshat Pashut, oui, bien sûr, il est mort. Peut-être il est mort même. Peut-être il est mort même un peu plus tôt, avant que Yosef il est mort. En tout cas, nouveau roi, il est venu. Asher lo yada et Yosef, il ne connaissait pas Yosef. Mais normalement, on se rappelle un peu quand même un roi qui a régné 80 ans. Ça laisse des traces dans les annales. Oui, et ici, on est obligé de dire que quoi? Qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas connaître. Voyomar el Amo, il dit à son peuple, « Hinei, voici, Am Bnei Israël, le peuple de Bnei Israël, Rav. » Et Rav, ses noms, ils sont nombreux. Ve'atsum et puissant m'emmène de lui. Ils sont plus nombreux, ils sont plus sans que lui. Qui c'est lui? Ou de nous, m'emmène nous. C'est quoi m'emmène nous?
De nous.
De nous ou de lui? C'est quoi la traduction?
De nous.
De nous. sont plus puissants que nous. Hava. Hava veut dire quoi, Hava? Hava veut dire préparons-nous et prenons conseil. Ça veut dire, c'est une expression de longue réflexion. Hava, il faut bien, bien se préparer, bien réfléchir. Nitra kemalo, nous devons être plus intelligents que nous. Nous devons les doubler. C'est la perversion. On doit doubler l'autre. Penirbe, de peur qu'il se multiplie encore plus. Voilà, il sera quitté Krenamilchama quand une guerre viendra. Quand on va rencontrer une guerre, Menosaf Gamou Alson et nous, il va s'ajouter avec nos ennemis. C'est-à-dire, les Juifs, c'est une cinquième colonne. Paro, il accuse les Juifs, qui étaient pourtant des citoyens tout à fait fidèles, tout à fait fiables en Égypte. Ils n'ont jamais fait la moindre des choses contre les Égyptiens. Eh bien, Paro, il s'imagine un scénario que les Juifs sont sûrement une cinquième colonne. S'il y a une guerre, ils ne vont pas lutter pour défendre l'Égypte. Ils vont lutter avec les ennemis. Et pourquoi ils s'imaginent ça? Venil Khambanou, ils feront la guerre contre nous. Ve'alaminaharetz, il montera de la terre. Alors, il y a deux traductions. Soit lui, il montera les Juifs, ils vont se sauver de la terre. Ils vont quitter la terre. Soit alaminaharetz veut dire qu'ils vont nous mettre dehors. Ils vont nous jeter dehors. Nous serons obligés de quitter et eux, ils vont prendre le pays. Comment ça se fait qu'ils soupçonnent les Juifs? Pourquoi ils disent comme ça? Parce que la règle dit un homme, il prête des intentions agressives à l'autre quand lui-même, c'est un homme agressif. Ça, c'est une grande règle.
Paranoïa avec les Juifs, déjà. Hein? Paranoïa avec les Juifs. Le complot juif, ça a toujours...
Oui, mais d'où ça vient, ce parano de complot juif? Ça vient parce que ces gens-là qui ne nous aiment pas, eux, ils auraient voulu nous voir liquider. Donc, ils ont peur que les Juifs, ils vont les liquider. Pourquoi ils prêtent aux Juifs des intentions qu'on veut leur faire du mal? C'est parce que eux, ils veulent nous faire du mal. Eux, ils veulent nous faire du mal, donc ils croient que nous voulons leur faire du mal. Un homme qui ne veut pas faire du mal à l'autre, qui est gentil, pourquoi il prêtera à l'autre tant qu'il n'a pas de preuves? Maintenant, si on voit que l'autre, vraiment, il a des intentions agressives, et oui, d'accord, ça c'est autre chose. Mais les Juifs, ils étaient des citoyens, comme tout le monde. En tout cas, ce qui concerne ce soupçon que les Juifs ils vont se mettre avec nos ennemis, c'est du pur Lashon Hara. C'est pour permettre le sang juif. C'est accuser, c'est, ça s'appelle faire un procès d'intention, et ça, c'est terrible. Condamner quelqu'un sans preuve et faire une politique d'antisémitisme qui commence maintenant, faire une politique de mépris vis-à-vis du peuple juif parce qu'ils vont se mettre avec nos ennemis. C'est vrai que c'est de façon récurrente. Les antisémites, ils ont fabriqué ça vis-à-vis des juifs toujours dans tous les pays. Aujourd'hui, tous les Proche-Orient, tous les Arabes, ils vivent sur cette folie. Les Israéliens sont venus pour détruire le pays arabe. Mais qui veut détruire le pays arabe? Mais personne rêve à détruire le pays arabe. C'est parce qu'eux, ils veulent nous détruire. C'est pour ça qu'ils croient que nous, on veut les détruire. Mais personne ne veut les détruire. Personne n'a la moindre volonté de les détruire. Mais eux, ils veulent nous détruire, donc ils croient que nous voulons les détruire. C'est comme ça, l'être humain, il est fait qu'il s'attrape dans ses propres mensonges. C'est comme ça. Les gens, ils se mettent dans leur... Quand les gens, ils commencent à mentir sur l'autre, ils se mentent sur eux-mêmes. Ils mentent sur eux-mêmes et ils s'embrouillent. Ils s'embrouillent. Et les paranoïas, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Ça ne se guérit pas. On ne peut pas guérir un paranoïa. Tu ne peux pas lui expliquer. Si tu expliques un parano, que quoi? Pourquoi il a tort? Qu'est-ce qu'il pense?
Que moi aussi, je fais partie du...
Voilà. Toi, tu fais partie du complot. Tu peux rien faire. Et tu vas amener un parano chez un psy. Il va dire, le psy, il était payé par mes ennemis pour m'embrouiller. On ne peut pas s'en sortir. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que... Les types, ils sont obligés de s'écrouler. Il est obligé de s'écrouler. On ne peut pas discuter avec un paranoïa, on ne peut pas lui expliquer, on ne peut pas les guérir, il n'y a pas de médicaments. Médicaments peut-être, je ne sais pas, peut-être il y a des médicaments pour l'embrouiller, mais on ne peut pas, il n'y a rien d'ex... Tu peux pas lui, tu vas lui prouver par 1000 trucs. Non, mais ça, ça fait partie du complot. Ça fait partie du complot. C'est une maladie grave. C'est pour ça avec les antisémites, on ne peut pas
Hitler,
parler.
Hitler était paranoïaque aussi.
Mais évidemment. Mais tous les discours de Hitler. Mais les juifs, ils veulent étouffer l'Allemagne. Et on a besoin de la place. Et on a besoin de vital, l'espace. Et l'espace pour vivre. L'Allemagne est complètement étouffée de l'extérieur, de l'intérieur. On est en danger. Ces gens, ils nous mettent en danger. Vous avez jamais vu le même incarne.
C'est comparé à une passion. C'est-à-dire ceux qui sont antisémites ont cette passion. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, ils trouveront toujours des éléments, des arguments pour alimenter cette passion antisémite.
Vayasimu alav. Alors ils ont mis sur lui Sarei Missim, des ministres d'impôts. Comment ça s'appelle le... Oui. Des missimes, des impôts. Mais tout le monde paye des impôts. Des impôts, c'est normal, mais ils ont fait des spéciales, c'est-à-dire des encaissements. Un taxe juif, évidemment, une taxe juive. Quelque chose de spécial. Tu es juif, tu payes une taxe spéciale. Le man a fait un auto pour le faire souffrir, besiblotam, dans leur souffrance, dans leur charge, dans leur siblotam. Comment on dit, sevel? Non, pas triste, sevel, c'est pas triste, c'est un autre mot. Pas souffrance non plus, sevel, ça veut pas dire souffrance, un autre mot, sevel. Un homme qui porte une charge très lourde, on appelle comment?
Un fardeau.
Un fardeau, un fardeau. Afin de les faire souffrir avec leur fardeau, ils ont mis un fardeau. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un, tu es obligé de me payer 5000 euros par mois des impôts. Mais comment je vais payer 5000 euros? Alors, il faut que je gagne 7000 euros pour payer 5000 euros de trucs. Mais d'où je trouve 5000 euros? Vous vous débrouillez, il faut payer tant et tant d'impôts. Alors, il faut que je travaille 24 heures sur 24 heures. Alors, il faut que... Comment je vais faire? Ça, c'est le prix pour vous. Le prix est comme ça. Le man a un auto pour le faire souffrir. Et alors quoi? Alors, quand on souffre, on a moins d'enfants. C'est la politique. Il voulait diminuer la natalité des Juifs. Toujours les Goyim voulaient dire que spécialement aujourd'hui, Baruch Hashem, les Juifs religieux, ils ont beaucoup d'enfants et il y a malheureusement des Juifs qui sont la tête, il est à Verlan. Et ils veulent aussi que les religieux, ils ont moins d'enfants. La natalité, ils ont peur de la natalité des Juifs religieux. Ça, c'est paro, il n'y a rien de nouveau. C'est quand on a la tête à Verlan, quand un Juif, il épouse les mœurs d'un goy, eh bien, il résonne comme un goy. Et le goy ne veut pas voir la natalité des juifs, eh bien, il y a certains juifs pas religieux qui voient avec un mauvais œil la natalité des juifs religieux. Bah, Yiven, et il a construit. Qui a construit? Il. Qui c'est il? Il, le peuple juif. Il a construit Arei Miskenot, le paro, des villes Miskenot. C'est quoi Miskenot? Alors, Pshat Pashut, il est de provision, des villes de provision pour Paro. Et Pitom va être Ramsès. Donc, Ramsès, c'est un mot très connu en Égypte. Dans l'Antiquité d'Égypte, le mot Ramsès, ça c'est les rois, ils s'appelaient Ramsès, des régions, ils s'appelaient Ramsès, des villes, ils s'appelaient Ramsès, des dynasties, ils s'appelaient Ramsès. Qu'est-ce que c'est dire exactement le mot Ramsès? C'est quoi le sens? Je ne sais pas. En tout cas, le mot Ramsès, c'est la noblesse aussi. Ils ont construit des villes de
d'approvisionnement.
C'est possible qu'il s'agit de quoi? Des pyramides. Peut-être les pyramides étaient là, on stockait. Qu'est-ce qu'on faisait avec ces pyramides? Les pyramides, c'est un phénomène extraordinaire. Ça n'existe pas des constructions comme ça. C'est un phénomène unique au monde. Il n'y a pas dans le monde entier quelque chose comme les pyramides. La hauteur, la lourdeur des pierres, les trucs, c'est un phénomène. Qui a construit ça? Combien de génies il fallait pour construire? Et à quoi ça sert? Pour que tu aies habité, tu fais une petite cabane, tu peux habiter, mais qu'est-ce que ça sert? C'est possible que ça, c'est les Haremit Kenot, et il s'appelle Ramsès. Ça, c'est là-bas où on stocke, et ça, c'est des exemples de stockage, peut-être. Peut-être, ça, c'est les grandes silos. Silos, ça s'appelle, là, on stocke du blé. Des grandes, mettons, il y avait sûrement dans toute l'Égypte, Yosef, il a créé dans toute l'Égypte. Ils ont ajouté, et Piton, et Ramsès, peut-être, ça, c'est les... Et là, on comprend qu'il faut des milliers, peut-être des centaines de milliers d'ouvriers pour apporter ces pierres, pour tailler ces pierres, pour les monter, parce qu'il fallait les monter. Ils sont 50 mètres. À quelle hauteur ils ont ces trucs-là? Ils sont 50 mètres. C'est énorme. Chaque pierre pèse des tonnes. Il fallait les monter. Il y a beaucoup des hypothèses comment ils ont construit. Parce que comment tu peux faire monter une pierre qui pèse 5 tonnes à 100 mètres hauteur? Une rampe. En quoi était faite cette rampe? En bois.
Il y avait beaucoup de rondins, il y avait beaucoup de systèmes de leviers. Ils jouaient aussi avec le sable. Quand ils arrivaient à une certaine hauteur pour caler les pierres, ils faisaient descendre du sable dans un sablier pour que les pierres viennent s'imbriquer exactement.
C'est aujourd'hui, c'est incroyable le génie de construction. Le génie de construction sans l'électricité. Aujourd'hui, si on veut le faire sans électricité, c'est presque impossible. Et il faut une armée des ouvriers. Il faut des centaines de milliers de gens pour une pierre, pour monter une pierre. Quel truc il faut pour que ça ne s'écroule pas? Il ne faut pas que ces murs ils s'écroulent. Le toit comme ça, d'un coup, ça peut se tenir. Mais on ne peut pas d'un coup. Il faut doucement. Mais ça s'écroule. Comment on fait? Alors, tu mets du sable ici. Et après, comment tu arrives? C'est un phénomène. Monter les trucs, c'est... Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont cassé la tête. Avec les lois de la physique et de la gravité, comment ils ont fait ça? C'est possible que ça, c'est les Juifs, ils ont été longtemps, et la Torah nous parle des constructions de folie. « Vayimen et aremis kenot le pharo et piton vet ramses » Alors, « Vecha asher ya'anu oto » Et de la même façon qu'il y a nous auto, qu'on les a fait souffrir, il y a nous, il y a un point dans le nous. Ça vient du langage inouï, c'est-à-dire souffrance. Comme ils les ont fait souffrir, ken irbe, de la même façon, ils se sont multipliés avec renifrot. Ça veut dire quoi? Chaque fois quand il augmentait la dose de souffrance, eh bien ça augmentait la natalité. Un phénomène. Ça, c'est un phénomène. Ils mettent sur le truc compteur sur 20, ça fait 20 enfants. Il fait compteur 30 souffrances, et bien 30 enfants. Et bien je vais tourner 70 trucs de souffrance, et bien 70 enfants. Comme ça, Kadesh-Bohri, il a fait. Plus qu'il faisait souffrir, plus ça donnait des enfants. Mais alors, Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israël Beparech. Et les Égyptiens, ils ont fait travailler les Juifs Befarech. Farech, ça veut dire quelque chose qui casse le corps. Parech, c'est quand on prend des amandes, on les casse en morceaux. Ils ont cassé le corps des Juifs. Détruire le corps des Juifs. Befarech. Et le mot befarech est composé, c'est un mot composé par un pei et rach. Pei veut dire la bouche. Rach veut dire tendre. Avec la bouche tendre. C'est-à-dire quoi, la bouche tendre? Il y avait une espèce de propagande douce. Venez travailler, vous allez devenir riche. On ne veut pas une petite demi-heure par jour, venez un peu. Ça a commencé avec une grande chorma, le Midrash raconte. Avec une bouche très douce, ils ont séduit les Juifs de venir travailler. Et après, clac, après le piège se renfermait et ils étaient piégés. Befarech. Voyons, Mermelech Mitzrayim, le roi de Mitzrayim. Donc, il y a c'est quoi? Il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a une réunion de crise. Une réunion, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, d'abord, on prend des chefs des impôts. Après, on oblige de construire des villes difficiles. Et après... Ah, j'ai sauté un mot, je n'ai pas vu. Vachacher Yanuoto, de la même façon qu'on les a fait souffrir, Kenir et Khenifrots, comme ça, ils se multipliaient. Vayakutsu mipenei benei Israël. Ils se sont dégoûtés devant les Juifs. Les Égyptiens, ils avaient un sentiment de dégoût. Et ça, c'est la folie. quand un homme il déteste tellement l'autre, il est dégoûté des autres. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Terminant quand on tombe à tel point d'animosité, on se dégoûte l'autre. On voit l'autre, je veux vomir devant l'autre. C'est terrible, c'est un sentiment terrible. Les gens, ils vivent entourés par des gens, ils me font vomir, ces gens-là. Et les types, les juifs, ils sont gentils et tout, et les types, ils veulent vomir. Les juifs, ils passent dans la rue, l'autre, il va vomir aux toilettes. C'est extraordinaire. Tellement les gens, la haine monte dans la tête. Monte, on fait de la propagande de monter la haine contre l'autre, on se dégoûte. Jusqu'on se dégoûte. Alors, ils ont fait rendu amer. Donc il y a plusieurs expressions. Chaque expression, ça monte la dose. Ils ont rendu amer leur vie. Amer. Amertume. Il y a comme ça. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà une fois senti? Il y a des gens qui se mangent les ongles. Qu'est-ce qu'on fait contre les mangeurs des ongles? Il y a un vernis amer. Vous avez déjà goûté ça une fois? Hein? Il y a une personne qui m'a dit. C'est amer comme l'exil des Juifs. C'est Vaïmareru et Chayem. Ils ont rendu amer leur vie. Le mot Vaïmareru vient du mot mar. Mar veut dire amer. Mais quand il y a deux reches, même resh, maror, c'est-à-dire le jusqu'au bout. Quand le deuxième et le troisième, la deuxième et troisième lettre, c'est les mêmes, c'est le mot de deux qui va jusqu'au bout. Mar, c'est amer, et maror, c'est le bout de l'amertume. Vayemareru et chayem, ils ont rendu jusqu'au bout amer leur vie. Bah, avoda kasha, avec un travail dur. Dur, ça veut dire aussi on jetait des pierres sur les gens. Dur. Chomer, avec du chomer. C'est quoi chomer? De l'argile. De l'argile. Ou bilveinim, des briques, des pierres. Ou bechol avoda basadeo, toutes sortes de travaux du champ. Et kol avodata, mais tous ces travaux, ça inclut toutes sortes d'autres travaux aussi que la Torah ne raconte pas. Cher avdu bahem befarer, il y a souvent le mot avoda. Combien de fois? Il y a marqué ba avoda, une fois avoda, ou bechol avoda basede, et kol avadota avodata. Cher avdu, il y a quatre fois le mot avoda. Eved, eved, esclave, esclave. L'esclavage, parce que le phénomène des esclavages, c'est une dégradation physique et c'est aussi une dégradation morale. On écrase quelqu'un, un esclave, apartheid, on méprise. L'Evet, il est privé de droits. On à Athènes, il y avait les libertés, mais il y avait les esclaves. Il y avait la démocratie pour les riches. Et la plèbe, c'était des esclaves. Ils n'avaient aucun droit. Ceux qui tuent un Eved à Athènes, et ben, ou même à Rome aussi, et ben, ils n'avaient pas sur à qui. Après, ils ont fait le tribun, non? Le tribun, ils ont fait après ce qui défendait les peuples. Mais au début, c'était n'existait pas. Vayomer Melech Mitzrayim. Et il disait le roi d'Égypte, l'amial et d'autres à Ivriot, aux sages-femmes à Ivriot juifs. À Cherchem Ha'achat Shifra, une elle s'appelait Shifra. Le schéma chénite Poua et l'autre s'appelait Poua. C'est-à-dire qu'il y avait deux sages-femmes. Comment? Pour des milliers de gens qui naissent, on ne peut pas deux sages-femmes. C'est-à-dire c'était les chefs. Ceux qui commandaient Shifra. Ça vient de quel mot Shifra? Rachidi Shemeshaperet et Avlad. Elle embellissait l'enfant. Elle faisait mignon. Elle s'occupait, embellir. Et Poua, ça veut dire. Rachid traduit Poua, c'est Myriam. C'est qu'elle chante, elle berce. Elle chante et elle berce les enfants pour leur donner du courage. Donner du courage, chanter. Tu es juif, tu es important, voilà mon enfant, tu vas devenir un bon juif après. Elle chante, c'est très important. Un enfant que tu arrives au monde, qu'on lui chante des bonnes choses. Rabbi Shua ben Hanania est devenu le plus grand. Chacham des juifs du peuple juif, Rabbi Yocham Ezaka, il dit Ashrei Yoladeto. C'est grâce à sa mère. Parce qu'elle prenait le berceau de Rabbi Yeshua, elle est partie à la yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle a mis le berceau dans la choule des femmes, Et bon, elle disait, il est mistam à côté, je ne sais pas, elle priait. Et l'enfant, toute la journée, entendait les chachamim étudier. Et ça, ça donne de la chokhma. Ça donne de la chokhma. Il y avait ici une histoire avec un assassin. Un assassin, avant, quand ils l'ont jugé, le psy, il est venu. Il a dit, quand vous avez commencé d'être violent? Il dit, déjà à l'école, je frappais. Quand on m'énervait, je frappais. À l'école aussi. Après, il a dit, quand vous avez commencé? Il dit, je ne sais pas. Alors, ils ont appelé les parents. Alors, ils ont dit, comment c'était à la maison? Alors, la mère a dit, chaque fois quand il y a un truc contre mon mari à moi, mon mari m'a frappé. Et l'enfant, il a vu. Oui, l'enfant, il a vu. Alors, il a dit, quand il avait 3 mois, le père, un jour, il avait un couteau, il était comme ça sur sa femme. Et l'enfant, il a crié, elle a hurlé. Alors voilà, maintenant, 20 années après, il est devenu assassin. C'est-à-dire, cet enfant à 3 mois, il a vu que quand il y a un problème, on le règle avec des coups. Voilà, c'est des images qui restent dans la tête. Après, il va à l'école, quand il se moque de lui, il casse la figure. C'est comme ça qu'il a vu chez lui à la maison. Et à 20 ans, il a tué quelqu'un. Les impressions que les enfants ils ont quand ils sont petits, ça forme, pour toute la vie, ça forme. Et quand un enfant, la mère dit, tu seras Yirei Shemayim, ça forme toute la vie. Il a dit, il y a la trinette à Ivriot, quand vous aidez à accoucher les femmes juives, Uriten Alha Ovnaïm, vous allez les voir sur la pierre d'accouchement. Imbenhu, si c'est un garçon, va amiten auto, vous allez le tuer. Vimbati, si c'est une fille, Vachaya, elle vivra. Pourquoi il disait pas tuer les garçons et les filles? Il voulait prendre les femmes juives pour se marier. C'est-à-dire, il avait peur des hommes. Les hommes sont des soldats. Les hommes peuvent devenir les soldats. Les femmes ne vont pas se rebeller avec les ennemis. Donc, si on tue les hommes, ça y est, plus de soldats. Et les femmes, tant mieux, elles restent. Et on va les épouser. Les femmes juives sont belles. Les goïms toujours voulaient les femmes juives, comme ça dit le Gemara Vodazara. Là, on raconte qu'un goï veut plus une femme juive qu'une femme goya. Parce qu'ils sont fidèles, ils ont plus de haine, ils sont plus honnêtes. Les goïms kiffent mieux une femme juive qu'une femme goya. Il n'y a que les juifs qui certains kiffent une goya plus qu'une femme juive. Mais chez les goïs, c'est le contraire. Ils veulent plus une femme juive. Alors, va tirena hamial dot et elokim. Mais les sages-femmes, elles craignaient Dieu. Velo asu, elles n'ont pas fait kasher dibra le melech mitzrayim, comme le roi Égypte a dit, va techayena. Elles ont fait vivre les enfants. Donc, elles craignaient plus Dieu que Paro. Et c'est pour ça qu'il a eu quoi comme fils? Cette femme-là, les sept sages-femmes, qui c'était? La mère de Moshe. Et quand Moshe est venu après chez Paro, tous les Kenim, ils avaient peur d'affronter Paro. Et que Moshe et Aaron n'avaient pas peur. Quand Moshe et Aaron sont rentrés avec les 70 Kenim, il y avait des bulldogs et des lions et tout le monde tremblait. Les Kenim, ils se sont sauvés. Et Moshe et Aaron, ils n'avaient pas peur parce qu'ils avaient peur d'Hachem plus que du roi. Parce que ça venait de la mer. La mère était sous menace de mort de Paro. Mais elle a dit, moi, je peux craindre Dieu, je ne crains pas Paro. Ça, c'est la mère, et telle mère, tel fils. Et le roi d'Égypte, il a appelé les Mialdot. Hein? Il les a appelés. Vayomer, il leur a dit, Madoua, si t'en as rasé, pourquoi vous avez fait ça, votre reine? Il a dit, vous laissez vivre les enfants. Vatomarna, Hamialdot, el Paro. Et sa femme disait à Paro, parce que les femmes mitzriotes égyptiennes ne sont pas comme les femmes juives. Qui chayot heina. Les femmes juives sont chayot, sont des dégourdies. Chayot vivantes, elles sont dégourdies. Elles sont intelligentes. Chayot, ça veut dire intelligente, ça veut dire vivante. Ça veut dire dégourdie, ça veut dire vif, vite. Beterem tavoal heina meledet, avant qu'elle meledet vienne, veyalado, elles ont déjà accouché. C'est-à-dire une femme juive qu'elle demande que la sage-femme vienne. Alors la sage-femme, je prends ma valise, mon truc, ça me prend 40 minutes pour arriver dans la maison. Et l'enfant, il est déjà là. L'enfant, il est déjà là. On arrive toujours en retard, monsieur le roi. Bien sûr, c'est depuis pourquoi. Paro, il a gobé ça. Il a gobé ça. Oui, je cours, toute la journée, je cours, mais ça ne marche pas. Hein?
Il ne les a pas
punis. La mialdot. Et Dieu, il a fait... Vayait quelque chose de bien pour les sages-femmes. C'est-à-dire quoi, il a fait quelque chose de bien. Il les a bénis. Quel bien elles ont reçu. Qu'elles ont reçu, c'est-à-dire qu'Hachem a fixé qu'elle sera la mère de Moshe, d'Aaron, de Myriam. Non, Myriam était déjà née. Oui, Myriam, c'est quoi? Va-yirev-ha-am. Et le peuple se multipliait. Va-yats-mou-me-od. Ils sont devenus puissants. Va-yir, ce fut qui yaru ham yaldot et Elohim, le fait qu'elle est mialdot. Ils craignaient Dieu. Va-yas-lehem-batim. Il leur a fait des maisons. C'est-à-dire quoi? Il leur a fait des maisons? Des maternités. C'est-à-dire, avant, ces sages-femmes, elles devaient courir d'une maison à l'autre. Alors, on perd beaucoup de temps avec le chemin. Mais comme elle craignait Dieu, elle voulait à tout prix réussir. Alors, on a fait des maternités. Comme ça, les femmes viennent accoucher tous. Et comme ça, elles peuvent, des centaines de milliers de femmes, on peut s'occuper d'elles facilement. Ça, c'est le pshat pashut. Après, il y a d'autres pshatim. Qu'est-ce que c'est dire des maisons? Maisons, c'est dire aussi des familles. Et on a donné des familles importantes. Myriam, elle s'est mariée avec qui après Myriam? Kalev ben Yefouné. Vaitzav paro lechol amolemor. Et paro, il a ordonné à tout son peuple. Kol ben ha'ilot. Ça veut dire, au début, il voulait silencieusement se débarrasser de la natalité des juifs. Il dit aux sages-femmes juives, où tu es ni vu ni connu, comme ça, en cachette. Et il voit que ça ne marche pas. Les femmes juives, elles ont des enfants. Elles ont des enfants. Alors donc, il a dit, bon, il faut prendre maintenant un autre remède. Et bien, il parlait carrément au peuple. Il parlait carrément au peuple. Quand vous trouvez un garçon né, vous le jetez dans le fleuve. C'est, on va se débarrasser d'une façon radicale. On va les jeter dans le fleuve. Vous le jetez dans le fleuve. Et chaque fille, vous allez faire laisser vivante. C'est-à-dire qu'il jetait des enfants. Donc le Nil était bourré des enfants juifs. Et qu'il les mangeait, les crocodiles. Les crocodiles mangeaient les enfants juifs. Combien des enfants juifs ils se sont fait manger là-bas? Aucune idée. Combien des enfants juifs? On ne peut pas savoir. Le Nil était bourré des enfants juifs. Un Égyptien marche dans la rue, il trie un gamin de juif de 3 mois. Plaf! On le prend, on le balance dans le Nil. Et pourquoi pile ce genre de mort? Il y a mille façons comment on peut liquider quelqu'un. Pourquoi pile jeter dans l'eau? On va le jeter. Dans le ben ha'ilot ha'yohora tashlichuhu. Dans le yohor, vous allez le jeter. Et pourquoi jeter? Pourquoi pas poser? Jeter. Pourquoi jeter? C'est-à-dire pas au bord du fleuve. Si tu poses au bord, peut-être il peut sortir, la mer peut venir et le sortir. Mais tu jettes, c'est-à-dire tu jettes à 10 mètres au milieu du fleuve, ça y est. La mer ne peut pas rentrer sauver 10 mètres, c'est dangereux le Nil.